Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour et merci à toutes et à tous pour votre fidélité à ce programme. Un petit coucou aussi à toutes celles et ceux qui écoutent cette émission en podcast. Dans ce programme, aujourd'hui, on parlera politique sans faire de politique. Alors je m'en explique pour clarifier d'entrée l'objectif de ce programme et dissiper toute ambiguïté sur mes intentions. Dans de nombreux pays, on retrouve une tendance à la bipolarisation. C'est-à-dire deux partis, généralement un de gauche et un de droite, se renforcent au cours du temps et finissent par dominer l'espace politique en formant ce qu'on appelle un duopole, à la différence d'un monopole. Le clivage gauche-droite est une manière de nommer et de caractériser les idéologies, les idées, les politiciens ou même les partis selon leur position politique et leurs valeurs. L'opposition entre la droite et la gauche structure fortement l'échiquier politique, bien qu'il existe aussi des partis se définissant comme centristes ou qui revendiquent un dépassement de ce clivage. Mais on passe souvent d'une phase de multipartisme à une phase de bipartisme. En Europe, seuls quelques pays y échappent grâce à l'ancienneté et à la pluralité de leurs clivages historiques, ce qui permet à trois voire quatre grands partis d'exister. Voici quelques grands pays ou pays voisins de la France où l'on retrouve un bipartisme. Alors, je vous les cite en commençant par les partis de gauche, puis de droite. Alors pour la France, c'est simple, pour commencer, les partis s'appellent tout simplement les partis de gauche ou de droite, la gauche ou la droite. En Angleterre, on trouve les travaillistes et les conservateurs. Or, le clivage est le même, seul l'intitulé et quelques différences et quelques nuances les différencient. Aux États-Unis, ce sont les démocrates ou les républicains. En Espagne, le Parti socialiste ouvrier ou le Parti populaire. En Allemagne, les sociodémocrates ou les démocrates chrétiens. Au Canada, les démocrates ou les conservateurs. En Australie, les travaillistes ou les libéraux. Très rapidement, on s'aperçoit que chaque pays a sa manière et une terminologie propre pour parler des partis de gauche et de droite. Et comme nous le verrons plus loin, là où les limites idéologiques ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre. Pour commencer, nous nous intéresserons à la France avec cette terminologie qui nous parle à tous, gauche et droite. La notion de gauche et celle de droite en politique est une construction progressive entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Même s'il est difficile de trouver une définition précise du clivage qui fonctionne quel que soit le lieu et l'époque, celui-ci changeant avec le temps, on peut reconnaître néanmoins que les partisans de gauche accordent généralement beaucoup d'importance aux idées de progressisme et d'égalité, là où la droite valorise la tradition, la hiérarchie et ou la notion de mérite. Alors sans donner d'appréciation personnelle de ce clivage, la gauche favorise les valeurs de liberté, de solidarité, d'insoumission, de tolérance, de justice sociale, de nationalisation des biens communs et des services publics, ou de planification de l'économie. La droite, quant à elle, prône les valeurs de libéralisme économique, de liberté d'entreprendre, de propriété privée, d'identité nationale, d'ordre, de sécurité, d'autorité, de justice pénale, ou de non-intervention de l'État dans l'économie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la notion de gauche comme celle de droite, ne possède pas un contenu idéologique, fixe et intemporel. Par exemple, le libéralisme est aujourd'hui généralement classé à droite, alors qu'il était classé à gauche du temps de Benjamin Constant, un romancier, homme politique et intellectuel français du XVIIIe siècle. Toutes ces valeurs fluctuant généralement dans l'espace et le temps, il est compliqué de trouver une définition qui fonctionne quelle que soit l'époque et le lieu. Par exemple, si la gauche était anticléricale et que la droite soutenait la religion catholique dans la France du XIXe siècle, cette fracture s'est atténuée, voire a disparu avec le temps. Le nationalisme, un concept clairement de gauche sous la Révolution française, est quant à lui passé à droite à la fin du XIXe siècle. Chaque camp ayant ses figures légendaires, Robespierre, Jaurès à gauche, Thiers, Poincaré à droite, pour ne citer que. Et si l'on faisait un peu d'histoire, on pourrait situer l'origine historique de ce clivage sous la Révolution. Lors des débats d'août et septembre 1789, les députés favorables au maintien du pouvoir du roi se sont placés à la droite du président de l'Assemblée et les partisans d'une limitation de ses pouvoirs à sa gauche. Petite parenthèse, on retrouve toutefois des traces antérieures de cette existence droite-gauche, ainsi, comme nous le verrons plus tard, en Angleterre dès 1672. Les membres de la Chambre des communes se plaçaient déjà à la droite ou à la gauche du roi. Puis, pour revenir à la France, le clivage entre droite et gauche s'ancra dans la vie parlementaire pendant la période de la Restauration. Ainsi, selon Marcel Gauchet, la vraie naissance de la droite et de la gauche date de la Restauration. D'un côté, à droite, les royalistes, contre-révolutionnaires et soutien à la cause royale. De l'autre, à gauche, les libéraux, héritiers des Lumières, républicains et partisans d'une démocratisation du droit de vote. Sous la Troisième République, la gauche sera qualifiée de parti du mouvement et la droite du parti de l'ordre. À partir de cette époque, le roi n'étant plus à la tête de l'État, la République sera petit à petit acceptée par la droite. La vie politique se divisera donc de plus en plus sur la question de la religion. La gauche était alors en faveur de la laïcité, alors que la droite soutenait le catholicisme d'État. On s'aperçoit déjà que les choses évoluent en permanence et qu'il est difficile, sans replacer la discussion dans son contexte historique, de définir ce qu'est la gauche et la droite. Ce que l'on pourra retenir, malgré tout, c'est que c'est à partir de 1789 que les mots « droite » et « gauche » prirent une signification politique en raison de la disposition des députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française étant née d'une rarissime consultation des députés du tiers-État, élus par les trois ordres sociaux reconnus en France à l'époque, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Ce fameux 17 juin 1789, les États généraux échappèrent à Louis XVI. Les députés du tiers-État, quelques députés du clergé et de la noblesse, prirent le nom d'Assemblée nationale, autrement dit, l'Assemblée de la Nation face au roi. Louis XVI tentera, le 20 juin, de les empêcher de se réunir en fermant la salle des menus plaisirs, mais les députés s'installèrent juste à côté dans la salle du jeu de paume. Et cette nouvelle, toute nouvelle assemblée commença ses travaux pour donner une constitution à la France. Et c'est lors d'un vote que naîtra la différence droite-gauche. Pour compter les voix plus facilement, on demanda aux députés de se ranger d'un côté ou de l'autre du président de l'assemblée. À sa gauche, ceux qui voulaient plus de pouvoir pour les députés, à sa droite, ceux qui voulaient plus de pouvoir pour le roi. Et ce placement s'installa définitivement avec le temps, jusqu'aujourd'hui encore. Alors, c'est vrai que au centre, en face du président de l'Assemblée nationale, s'installeront les députés qui voteront parfois avec la droite, parfois avec la gauche, parfois pas du tout. Et voilà, donc, depuis plus de deux siècles, que cette différence de placement dans l'hémicycle marque l'essence même de la politique en France. Voilà comment on pouvait résumer en quelques mots la terminologie et l'identification des deux courants politiques marquant les deux grandes tendances idéologiques en France, la gauche et la droite. Alors maintenant, deux mots aussi sur les couleurs associées à ces deux courants politiques. Le rouge, pour la gauche, est traditionnellement associé au mouvement ouvrier et socialiste. Il symbolise la révolution, la lutte pour les droits des travailleurs et l'égalité sociale. Cette couleur est devenue emblématique des partis de gauche, notamment du Parti communiste, du Parti socialiste aussi. Le rouge évoque également le sang versé pour la liberté et la justice sociale. Le bleu, pour la droite, est en revanche souvent associé à la monarchie et à des valeurs plus conservatrices. Historiquement, la droite française s'est rapprochée de la tradition monarchique et des valeurs conservatrices. Et le bleu est devenu une couleur symbolique pour ses idéologies. De plus, le bleu est souvent utilisé par les partis de droite et les mouvements républicains, comme le Rassemblement national. Cette dichotomie des couleurs s'est renforcée au fil des décennies, notamment à travers les élections et les représentations médiatiques. Elle est devenue une sorte de code visuel qui facilite la compréhension des affiliations politiques. En somme, le rouge et le bleu sont devenus des symboles facilement identifiables pour la gauche et la droite, en France, porteurs de significations historiques et idéologiques. Alors si je précise en France, c'est qu'on verra au cours de ce programme qu'il n'en est pas de même dans tous les pays. Alors une petite parenthèse, comme je le soulignais le mois dernier dans le programme anniversaire Orinoco fête ses 20 ans, le choix des thèmes musicaux sélectionnés pour illustrer chaque émission n'est pas dû au hasard, mais tente, dans la mesure du possible, d'être en adéquation avec le sujet traité. Et ce que l'on entend là est tout simplement la marche lugubre composée en 1790 par François-Joseph Gossec, surtout connu pour ses musiques révolutionnaires de circonstance. Car même si déjà actif sous l'Ancien Régime, il fut nommé musicien officiel de la Révolution. Sa marche lugubre, composée en 1790, est une des pages maîtresses des célébrations funestes, écrite pour rendre hommage aux citoyens morts lors de la mutinerie de Nancy. Elle est tout en majesté, sobre, solennelle, est aussi remarquable pour l'équilibre de ses timbres, et c'est dans cette marche que le tam-tam intégra pour la première fois l'orchestre. Notons et précisons qu'ayant sommairement défini les origines de cette articulation gauche-droite en France et l'ayant fait remonter à la Révolution française, Révolution française qui dura une dizaine d'années, la musique, comme les autres arts, a été un outil très prisé de soutien idéologique et populaire. La musique devait être à la hauteur de l'enjeu, jouée en plein air et pour une foule immense. Les compositeurs délaissèrent donc les genres destinés aux salles de concert et aux salons, au profit de ces musiques galvanisantes. S'inspirant des orchestres d'harmonie militaire, ils font favoriser les instruments avant et les percussions, beaucoup plus sonores que ceux à cordes, dont la voix serait inaudible passé les premiers rangs. Et parmi les compositeurs, on peut citer Cherubini, Méhul, compositeur auquel j'ai consacré d'ailleurs une émission en juin 2021. Que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter sur le site orinoco-podcast. Et juste avant cette marche lugubre, que l'on entend en ce moment, les musiques qui m'accompagnaient étaient signées Cherubini. Mais revenons au thème de ce programme, idéologie politique en deux mots, deux couleurs, clivage, gauche-droite dans le monde. En est-il de même dans tous les pays ? Parle-t-on de gauche et de droite pour identifier les deux partis qui se partagent l'échiquier politique des pays bipartisme? Nous allons voir. Allons rendre une petite visite à nos voisins britanniques qui, déjà au niveau de la conduite automobile, sont différents de nous, comme chacun le sait, nous roulons à droite, eux à gauche. Alors je précise, au niveau du code de la route. Où l'on se rejoint avec nos compères de la perfide Albion, c'est dans le choix des couleurs pour identifier les deux tendances, gauche et droite. Le rouge pour la gauche et le bleu pour la droite. Je le précise, car ce n'est pas le cas dans tous les pays. Juste une petite précision, on parle souvent de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni, sans souvent trop connaître la différence exacte entre ces trois termes. Alors, je vais vous le rappeler pour clarifier les choses et éclaircir la suite de ce programme. Par ordre de taille, on se simplifiera la tâche. Le Royaume-Uni est composé de quatre nations, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Quatre nations constitutives. La Grande-Bretagne, quant à elle, c'est la même chose sans l'Irlande du Nord. C'est à vrai dire juste cette grande île qui comprend l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Et vous l'aurez compris, l'Angleterre, c'est juste la plus grande des nations de la Grande-Bretagne. Et ce sont de nos amis anglais que nous parlerons dans la suite de ce programme. Comme je le signalais précédemment, où l'on se rejoint avec nos amis anglais en dehors du tunnel sous la Manche, c'est dans le choix des couleurs pour identifier les deux tendances gauche-droite, le rouge pour la gauche et le bleu pour la droite. Je le précise, car ce n'est pas le cas dans tous les pays. Toutefois, on peut noter que l'utilisation du rouge pour la gauche et du bleu pour la droite est une tendance que l'on observe dans plusieurs contextes politiques à travers le monde, même si ce n'est pas une règle absolue. Par contre, si les couleurs sont identiques à celles de la France, l'appellation des deux grands partis est totalement différente, mais très évocatrice. Pour la gauche, le parti s'appelle le Parti travailliste, Labour Party. Et pour la droite, le Parti conservateur, Conservative Party. La notion de gauche et de droite, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, n'était pas encore formalisée en 1672 en Angleterre, époque où les clivages politiques étaient principalement représentés par les Whigs et les Tories. Les Whigs militaient contre l'absolutisme royal et étaient généralement associés à des idées de progrès et de démocratie. Les Tories, quant à eux, défendaient l'aristocratie foncière et soutenaient le pouvoir royal, incarnant ainsi des valeurs plus conservatrices. Ce clivage entre les Whigs et les Tories peut être considéré comme une première forme de distinction politique qui préfigurait plus tard le clivage gauche-droite. Mais il ne correspondait pas encore aux définitions modernes de ces termes. Suite à la glorieuse révolution de 1689, qui a mis un terme à la monarchie absolue, héréditaire et de droit divin, la Grande-Bretagne s'est dotée d'un régime parlementaire, où l'essentiel du pouvoir appartient au Parlement, c'est-à-dire aux représentants de la nation. Mais au fil des décennies, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans le monde des rois Georges. La vie politique n'était pas aussi saine et sereine que dans la Rome d'Auguste. Le système n'était pas exempt de dysfonctionnement. Les deux partis, Whigs et Tories, se déchiraient le pouvoir plus qu'ils ne le partageaient, et chacun d'eux était miné par des luttes intestines. Ainsi, bien que l'opposition entre ces deux groupes ait posé les bases d'une future classification politique, la véritable conceptualisation des notions de gauche et de droite, avec leurs connotations idéologiques actuelles, n'émergea qu'ultérieurement, notamment à partir de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Fondé en 1834, le Parti conservateur, héritier des Tories, prend officiellement le nom de Parti conservateur et unioniste en 1912, alors qu'il absorbe les libéraux unionistes. Au début des années 1970, le Parti conservateur éliminera de son langage courant l'épithète unioniste dans un effort de se distancier du Parti unioniste d'Ulster, avec lequel il entretient jusque-là des liens étroits. C'est ce parti qui formera la plupart des gouvernements au cours du XXe siècle, faisant de lui un des deux partis dominants sur la scène politique britannique. Ces politiques sont marquées par un conservatisme classique, tant sur le plan social qu'économique. voisin de la France en cela. Parmi les personnalités les plus connues de ce parti, ayant accédé aux fonctions gouvernementales depuis 1945, on peut citer Winston Churchill, Margaret Thatcher, John Major, David Cameron, Theresa May et Boris Johnson. Le Parti travailliste, lui, a été fondé à la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1900, à l'initiative de membres du mouvement syndical et de groupes socialistes. Il a été créé pour représenter les intérêts de la classe ouvrière au sein du Parlement britannique. L'origine du parti est liée à la nécessité d'une représentation politique pour le prolétariat urbain, qui venait d'acquérir le droit de vote. Ce parti travailliste britannique, né du mouvement syndical de la fin du 19e, a dépassé le Parti libéral comme principal parti d'opposition aux conservateurs au début des années 1920. Dans les années 1930-1940, il a mis l'accent sur la planification nationale, en utilisant la nationalisation de l'industrie comme outil. Le Parti travailliste a connu plusieurs périodes au gouvernement, d'abord sous la forme de gouvernement minoritaire, sous Ramsès MacDonald, en 1924 et de 1929 à 1931, puis, pour faire simple, le Parti travailliste est revenu au pouvoir avec une majorité de 179 sièges aux élections générales de 1997, sous la direction de Tony Blair. Certains s'en souviennent. Parmi les différences notables, et contrairement à la France, où le libéralisme est souvent classé à droite, en Angleterre, il est perçu comme une force politique de gauche. Mais sans vouloir opposer la gauche et la droite française à l'anglo-saxonne, on peut, une fois de plus, rappeler qu'en France même, les notions évoluent, comme je le disais en préambule. Et là, deux notions qui ont évolué me reviennent et je vais les partager avec vous. Conservatrice par définition, la droite française a, dans sa jeunesse, dénoncé la peine de mort, certainement par charité chrétienne, et la colonisation, par respect des identités nationales. En ces années 2020, par un singulier retournement de valeurs, la droite extrême a repris à son compte la défense des classes laborieuses. La gauche française a aussi longtemps été favorable à la peine de mort, jugée nécessaire pour sauver la Révolution, et à la colonisation, une manière d'étendre la civilisation. Elle a été aussi hostile au vote des femmes, coupable de trop écouter leurs curés. Alors ni je dénonce ni j'approuve, je constate juste les évolutions que connurent ces courants de pensée. Alors je m'entends dire, peut-être les moins au fait de l'actualité, ou du moins de ce type d'actualité, mais ce n'est pas un roi, et avant lui une reine, la fameuse reine d'Angleterre, cette bien-aimée Elisabeth II qui règne en Angleterre. Eh oui, vous avez raison, après le long règne d'Elisabeth II, c'est son fils qui devint roi, le roi Charles III d'Angleterre. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la monarchie du Royaume-Uni, communément appelée monarchie britannique, n'a rien à voir avec celle qu'on a connue en France, car le rôle du monarque est constitutionnel et limité à des fonctions cérémonielles non partisanes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'Angleterre avec une toute petite précision. Alors tout comme la première partie consacrée à la France fut illustrée musicalement par Cherubini et Gossec, cette partie consacrée à la tangible formation gauche-droite dans l'Angleterre du XXe siècle fut illustrée par une composition de Vaughan Williams, la sixième symphonie. Alors, petite précision, l'Angleterre a vécu un tel vide dans la création musicale après Purcell et Handel qu'elle a été qualifiée au XIXe siècle de pays sans musique. Par bonheur, elle connut un renouveau au XXe siècle avec Vaughan Williams, Michael Pippett, entre autres, Benjamin Britten, considéré comme le plus grand compositeur britannique depuis Henri Purcell. Et ce que l'on entend en ce moment n'est autre qu'une composition de Rebecca Clark, une compositrice et altiste née en 1886. Et comme le sort de nombreuses compositrices, bien qu'elle ait écrit près d'une centaine d'œuvres, seules 20 pièces ont été publiées de son vivant. prenons à présent la direction d'un grand pays, pays qui fut colonisé par des Britanniques au XVIIe siècle, ce qui a établi des bases culturelles, linguistiques et institutionnelles communes. Rappelons aussi que ces mêmes colonies britanniques ont mené une guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, finissant par la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Et c'est dans ces États-Unis, pas si unique ça d'ailleurs, que nous allons nous installer quelques instants pour de nouveau examiner de plus près la nature et les origines du bipartisme droite-gauche qui, contrairement à leurs amis anglais ou à la France, ne s'appelle ni droite ni gauche, ni conservateur ni travailliste, mais républicain et démocrate. Ce qui ne vous a certainement pas échappé avec la couverture médiatique qui fut donnée aux dernières élections américaines. Effectivement, nous venons récemment de vivre en live les dernières élections américaines avec le mois dernier l'intronisation, du moins l'installation dans ses fonctions, du nouveau président de la République. Mais durant toute la campagne, les deux mots qui revenaient sans cesse, en dehors de Donald Trump et de Kamala Harris, c'était « républicain » et « démocrate », ce qui aurait pu correspondre en France à droite et gauche. Mais les courants politiques républicains et démocrates aux États-Unis ont des origines et des significations distinctes qui ont énormément évolué au fil du temps. Et le terme « évoluer » est un euphémisme, comme nous allons nous en rendre compte. Commençons par le parti le plus ancien des deux, le Parti démocrate. Le Parti démocrate américain trouve ses origines dans le Parti républicain-démocrate, fondé à la fin des années 1790, soit une quinzaine d'années après la déclaration d'indépendance, par des figures comme Thomas Jefferson et James Madison. Et voici les principales étapes de son évolution. Donc en 1792, c'est la création du Parti républicain-démocrate qui s'oppose au Parti fédéraliste. Ce parti défendait les droits des États et s'opposait à la centralisation du pouvoir fédéral. En 1828, soit 36 ans plus tard, ce parti républicain-démocrate se divise. Et les partisans d'Andrew Jackson, un héros militaire et populiste, forment le Parti démocrate. Jackson est élu président cette année-là, marquant le début d'une nouvelle ère politique. Entre 1830 et 1850, c'est ce nouveau parti, le Parti démocrate, qui se divise sur la question de l'esclavage, avec des factions pro-esclavagistes dans le sud et des démocrates anti-esclavagistes dans le nord. Et cette division conduisit à des tensions internes croissantes. En 1860, le Parti démocrate ne parvint pas à s'unir autour d'un candidat lors de l'élection présidentielle, ce qui permit l'élection d'Abraham Lincoln du Parti républicain et déclencha la guerre de sécession, qui, rappelons-le, fut un conflit civil qui a opposé les États du Nord aux États du Sud, principalement sur la question d'esclavage. Conflit ayant causé plus de 617 000 morts, avec des conséquences dévastatrices dans le Sud, tant sur le plan humain qu'économique. Ce conflit s'est terminé par l'abolition de l'esclavage et a marqué un tournant dans l'histoire des États-Unis avec des répercussions durables sur la politique et sur la société américaine. Puis après son élection en 1932, Franklin Roosevelt transforma le parti en champion de l'État-providence et des droits des travailleurs. Ce soutien des minorités et des classes populaires s'accrut, tandis que le parti commença à perdre son ancien électorat du Sud, ça se comprend. Dans les années 60-70, c'est-à-dire 1960-1970, l'adoption de lois sur les droits civiques entraîna une rupture avec les démocrates du Sud ségrégationnistes. Et le vote noir devint alors un soutien crucial pour le parti, qui se repositionna sur les valeurs progressistes. Sous Barack Obama, premier président noir des États-Unis, élu en 2009, le Parti démocrate se recentra sur des questions sociales et environnementales, tout en intégrant des éléments plus progressistes. Ce qui est hallucinant, c'est que, de ses origines à aujourd'hui, le Parti démocrate a évolué, s'est même transformé, comme nous venons de le voir ensemble, d'un parti défendant les droits des États et l'esclavage, à un parti qui a progressivement adopté des positions plus progressives et inclusives, en particulier au XXe siècle. Le parti républicain, quant à lui, connu sous le nom de Grand Old Party, a été fondé en 1854 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ses origines sont liées à plusieurs facteurs clés. Le Parti républicain est né de la fusion de dissidents nordistes du Parti Whig et du Parti démocrate. Ces dissidents s'opposaient à la loi Kansas-Nebraska qui autorisait l'expansion de l'esclavage dans les territoires nouvellement acquis. Cette lutte contre l'esclavage était au cœur de la mission du nouveau parti, de ce Parti républicain. Les fondateurs du Parti républicain considéraient l'esclavage comme une institution inhumaine et cherchaient à abolir cette pratique. Comme on le voit, comme on le découvre pour certains, à sa création, le Parti républicain prônait une vision progressiste et libérale, axée sur la liberté individuelle, la promotion sociale par l'effort et le mérite, ainsi qu'une société industrielle éduquée. Le parti a rapidement gagné le soutien des abolitionnistes et des groupes religieux, notamment des presbytériens, des méthodistes et des quakers, qui partageaient ses valeurs morales. En résumé, le Parti républicain a été fondé en réponse à des enjeux politiques et sociaux majeurs de son époque, notamment l'esclavage et les droits des États, et a cherché à établir une alternative au parti existant en mettant l'accent sur des valeurs progressistes et libérales. Puis, les évolutions se ressentirent entre autres avec l'élection de Ronald Reagan en 1980, en se tournant vers le conservatisme économique et social, renforçant l'identité du parti. Le soutien des électeurs évangéliques devint crucial pour le parti, qui adopta des positions conservatrices sur des questions sociales, comme l'avortement. Pour faire court encore, aujourd'hui, la grande différence entre ces deux partis, qui connurent de grandes évolutions au fil du temps, influencées par des contextes historiques, économiques et sociaux changeants, pourrait se résumer en deux ou trois mots, surtout en ce qui concerne les valeurs sociales. Soutien au droit à l'avortement et à la défense des droits des minorités pour les démocrates, s'opposant généralement à l'avortement et défendant des valeurs plus traditionnelles, cherchant à mettre fin à l'immigration illégale et insistant sur le respect des droits individuels pour les républicains. Ces différences ne sont pas absolues. Il existe une certaine diversité d'opinion au sein même de chaque parti. Toutefois, ces distinctions fournissent un cadre utile pour comprendre les principales lignes de fracture entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Quant aux couleurs, permettant de les identifier clairement, simple, c'est le contraire de la France. Le parti de gauche, démocrate, c'est le bleu, et pour les républicains, de droite, c'est le rouge. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce duopole droite-gauche, républicain et démocrate, aux États-Unis. On peut aussi noter quelques figures qui marquèrent récemment ces deux partis au XXe et XXIe siècle. Franklin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden et tout récemment Kamala Harris, pour les démocrates. Abraham Lincoln, Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump, pour les républicains. Et comme précédemment, pour illustrer musicalement cette partie consacrée aux États-Unis, ce sont des compositions de Florence Price, une compositrice américaine et première afro-américaine à écrire et faire jouer une symphonie par les grands orchestres du pays. Mais je ne peux pas m'empêcher malgré tout de rappeler le tournant à 180 degrés que prirent ces deux grands partis américains en un siècle, passés réciproquement de pour à contre l'esclavage. Enfin, c'est certainement ça la politique. Puis, juste au nord des États-Unis, on trouve le Canada, qui lui aussi connaît ce bipartisme gauche-droite, avec à gauche le Parti libéral du Canada, le PLC, parti qui trouve ses racines dans les partis d'opposition, qui virent le jour dans les colonies de l'Amérique du Nord britannique, notamment là, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, et dans le Haut et Bas-Canada, naissance que l'on situe en 1867. Comme en France, le rouge est la couleur du parti de gauche, ce parti libéral. Ce rouge provient du défunt Parti Rouge, fondé par Louis-Joseph Papineau, qui était un radical réformiste anticlérical. Et c'est donc, après l'effondrement de ce Parti Rouge, que les membres modérés ont créé le Parti libéral du Canada en 1867, conservant le rouge comme couleur symbolique. Qui plus est, le choix du rouge permet au PLC de se démarquer visiblement et de renforcer son image de marque, en particulier dans un contexte où le parti conservateur utilise le bleu. Car, comme vous venez de le comprendre, le parti de droite est le parti conservateur. L'histoire de ce parti est assez récente, car fondée en 2003, née de la fusion de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur. Cette fusion a été un événement marquant qui a mis fin à une droite divisée au Canada. Bien qu'ayant une partie francophone, je ferai l'impasse sur les acteurs principaux de ce mouvement car je ne sais pas pourquoi, mais les médias ne nous parlent pas souvent du Canada et en préparant cette émission, aucun nom ne me parlait. Pour le parti de gauche, le Parti libéral, le nom de l'actuel chef du PLC et ancien Premier ministre du Canada nous parle un peu plus. Il s'agit de Justin Trudeau. Et ce duopole gauche-droite que l'on retrouve sous la dénomination libéraux-conservateurs et portant respectivement les couleurs rouge et bleu, viennent de vous être rapidement présentés sur une musique de Colin McPhee, né à Montréal en 1900 et reconnu comme le premier compositeur occidental à avoir effectué une étude ethnomusicologique de la musique balinaise. Son ouverture d'esprit le fit aussi s'intéresser à la world music dès les années 1930. Colin McPhee. Alors juste un petit rappel pour ceux qui seraient intéressés par les titres de ces thèmes musicaux, il vous suffira d'aller sur le site orinoco-podcast sous la rubrique de cette émission dont je vous rappelle le titre, Idéologie politique. Vous trouverez l'ensemble de la programmation musicale de ce programme. Alors, revenons à nos moutons. Et comme, juste avant de parler du Canada, on était sur les États-Unis d'Amérique, ancienne colonie britannique, allons faire un petit tour vers une autre ancienne colonie britannique, à plus de 15 000 km de chez nous, l'Australie. Australie où dominent aussi deux partis. Le Parti travailliste australien, ALP, un parti de centre-gauche qui a remporté les dernières élections fédérales et est actuellement au pouvoir sous la direction d'Anthony Albanese. Et le Parti libéral australien, un parti de centre-droite qui représente principalement les milieux d'affaires et la classe moyenne et se trouve donc en opposition au gouvernement actuel. Là encore, tout comme en Angleterre et en France, et contrairement aux États-Unis, les couleurs dominantes de ces partis sont le rouge pour le parti de gauche et le bleu pour le parti de droite. Quant à leur histoire, on peut dire que le Parti travailliste australien, l'ALP, fut fondé en 1900. À la suite d'un mouvement de grève générale inspiré par les syndicats ouvriers et partage des racines avec les travaillistes britanniques. Puis, dans les années 1980-1990, le parti a adopté des politiques de dérèglement et de libéralisation, s'éloignant des idéaux socialistes traditionnels. Et petit à petit, le parti travailliste a connu des changements idéologiques, se réorientant vers le centre et établissant des points d'accord avec le parti libéral, son principal rival conservateur. En deux mots, la gauche australienne n'a rien à voir avec LFI ou Podemos en Espagne. Quant au parti libéral australien, il fut fondé, lui, en 1944. Le parti libéral succéda au parti d'Australie Unie et regroupa des libéraux et des conservateurs opposés au parti travailliste qui avait déjà une quarantaine d'années. Puis au fil du temps, ils ont gouverné en alternance. Actuellement, dans l'opposition au niveau fédéral, ils restent au pouvoir dans certains États et territoires avec Peter Dutton comme chef depuis 2022. Il est intéressant de noter que l'Australie est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Ce qui sous-entend que le gouverneur général représente le chef de l'État, qui est le roi d'Angleterre. Mais il n'exerce pas de pouvoir quotidien dans le gouvernement. Le gouverneur général agit indépendamment des partis politiques et a des fonctions cérémonielles, tandis que le pays est réellement dirigé par le Premier ministre qui détient le pouvoir exécutif. Le Premier ministre est le chef du parti politique ou de la coalition ayant la majorité des membres à la Chambre des représentants après une élection. On trouve là une copie du système britannique. En deux mots, le Premier ministre, Anthony Albanese, membre du Parti travailliste australien, est la figure centrale de la direction du pays, tandis que le gouverneur général ne joue qu'un rôle de représentation. Et tout comme pour les autres pays survolés, l'illustration musicale que nous entendons actuellement, nous la devons à Arthur Benjamin, pianiste, chef d'orchestre et compositeur australien, né en 1893. Compositeur ayant eu une importante activité de composition de musique de film, dont la plus fameuse contribution concerne les deux versions de « L'homme qui en savait trop », celle de 1934 et de 1956 d'Alfred Hitchcock, où sa composition « Stormcloud Cantata » joue un rôle essentiel lors de la célèbre séquence du concert à l'Albert Hall. Je vous laisse l'écouter quelques instants. Alors après avoir fait un bref tour du monde jusque en terre australe, revenons sur notre bon vieux continent. Y a-t-il d'autres pays de la communauté européenne avec un bipartisme droite-gauche? Eh bien oui. Et nous allons les parcourir brièvement en commençant par un bref survol. L'Allemagne. Le pays est dirigé par une coalition comprenant les sociaux-démocrates, SPD, et les libéraux, FDP. Avec les Verts également impliqués dans le gouvernement. Le Portugal, le pays est dirigé par le Parti Socialiste, qui est un parti de gauche. L'Espagne, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, PSOE, est au pouvoir, représentant la gauche, tandis que le Parti Populaire, PP, représente la droite. Le Danemark, bien que le pays ait une coalition de centre-gauche et centre-droite, il existe un système bipartite où les partis de gauche et de droite jouent un rôle significatif. La Slovénie. Le pays a un gouvernement dirigé par un parti de droite, mais il y a également des partis de gauche qui participent au débat politique. Alors essayons maintenant de rentrer un peu plus en détail sur ces partis politiques s'opposant et cohabitant parfois. Alors bien qu'en Allemagne, plusieurs partis politiques jouent un rôle crucial dans le paysage politique, voici un aperçu des principaux partis. On retrouve le CDU, Union chrétienne démocrate d'Allemagne, avec des orientations centre-droite, représentant des valeurs chrétiennes et une politique conservatrice et libérale. Sa couleur n'est pas le bleu, mais le noir. Ce parti historique fut fondé en 1945 et a été au pouvoir de 2005 à 2021. À gauche, on retrouve le SPD, Parti social-démocrate d'Allemagne, avec comme ligne idéologique la justice sociale, le droit des travailleurs, la solidarité. C'est à vrai dire le plus ancien parti d'Allemagne qui a alterné entre gouvernement et opposition. La couleur l'identifiant étant le rouge. Alors quand je disais précédemment qu'il s'agissait du plus vieux parti d'Allemagne, il est bon de préciser qu'à sa création en 1875, il s'appelait SAP, Parti Socialiste des Travailleurs, avant de prendre sa dénomination actuelle, SPD, soit Parti Social-Démocrate d'Allemagne, simplement en 1891, faisant de lui quand même le plus vieux parti politique d'Allemagne. Puis il y a la Grèce, la mère de la démocratie. Rappelons qu'Athènes est célèbre pour avoir établi un système démocratique où les citoyens, hommes, participaient directement aux décisions politiques. Des assemblées se réunissaient régulièrement pour débattre et voter sur des questions importantes. Actuellement, la Grèce est une république parlementaire depuis sa constitution de 75. C'est-à-dire que le président est élu par le Parlement et qu'il a un rôle principalement cérémonial, alors que le pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et son cabinet. Jusqu'à la crise grecque de 2008, la vie politique était dominée en alternance par le mouvement socialiste panhellénique et la nouvelle démocratie. Pour la première fois de son histoire, la présidente de la République est une femme, Ekaterini Sakellaropoulou, élue en janvier 2020. Le Premier ministre étant lui, Kyriakos Mitsotakis, un dirigeant du parti Nouvelle Démocratie, en poste depuis juin 2023. Nouvelle Démocratie étant un parti de droite, un parti conservateur fondé en 1974. Les principales idéologies de ce parti sont décrites comme libérales, conservatrices et démocrates chrétiennes. L'identité visuelle de ce parti, un logo bleu ciel et blanc. La gauche, en Grèce, quant à elle, est représentée principalement par le parti Syriza et est confrontée actuellement à des défis majeurs allant de la perte de confiance du public à des divisions internes, ce qui compromet sa capacité à jouer un rôle significatif sur la scène politique actuelle. On se souvient qu'avec l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras en 2015, le pays devait faire figure de modèle pour les gauches radicales d'Europe. Alexis Tsipras, ex-premier ministre, annonçait sa démission de la direction du parti Syriza à Athènes en juin 2023, après la lourde défaite aux élections. Petite parenthèse, le parti de droite en Grèce, Neia Dimokratia, souvent traduit par Nouvelle Démocratie, mériterait une traduction plus pertinente qui serait Nouvelle République. Voilà encore une fois, en deux mots, comment se vit le bipartisme en Grèce. Et la musique que nous entendons est celle de Nikos Skalkotas, un compositeur et violoniste grec, membre de la seconde école de Vienne, mais très influencé par la musique classique et la musique traditionnelle grecque. Puis sur la péninsule ibérique, il y a l'Espagne et le Portugal. En Espagne, alors que nous allons vivre cette année les 50 ans de la mort du général Franco, le climat politique reste tendu entre la gauche et la droite. La gauche étant représentée par Pedro Sánchez, un membre du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, et dirigeant le pays depuis 2018. Et la droite est dénommée Parti Populaire, et depuis 1982, elle gouverne en alternance avec le Parti Socialiste. Les couleurs assez traditionnelles, rouge pour le PS et bleu pour le PP, le Parti Populaire de droite. Là aussi, la forme de gouvernement en Espagne est une monarchie parlementaire, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle, démocratique, représentative, sociale, dans laquelle le monarque est le chef de l'État, tandis que le Premier ministre, dont le titre officiel est d'ailleurs président du gouvernement, est le chef du gouvernement. Rappelons que le roi d'Espagne actuel est Felipe VI, et s'il devait lui arriver quelque chose, ce serait sa fille aînée, Leonor de Borbón y Ortiz, princesse des Asturies, qui prendrait sa place, Felipe VI n'ayant pas eu de garçon. Là encore, un exemple d'alternance entre le parti socialiste ouvrier et le parti populaire. Quant au Portugal, il s'agit d'une république de type semi-présidentiel, régie par la Constitution de 1976. Le pouvoir exécutif incombe essentiellement au gouvernement, bien que le président de la République conserve d'importantes prérogatives en matière de politique étrangère et de défense. Les deux partis dominants, grâce à certaines alliances, restent el Partido Socialista, le Parti Socialiste, avec le rose comme couleur, et le Parti Social-Démocrate, conservateur-libéral, représenté par la couleur orange et pas bleu comme dans d'autres pays. Là encore, l'illustration musicale, nous la devons à un compositeur de ce pays dont je viens de vous parler, Luis Freitas Branco, figure importante de la culture portugaise dont on ne parle pas assez souvent, à mon avis. Alors juste une petite précision que je colle à l'instant et a posteriori sur cette petite pause musicale de l'enregistrement de ce programme. C'est que cette émission, ayant été enregistrée il y a quelques semaines, et sa diffusion sur les antennes reportée pour diverses raisons, il est possible, les choses allant si vite en politique, que certaines infos de ce programme soient dépassées, même si légèrement inexactes dans les détails ou dans les personnes nommées. Le tableau esquissé au cours de ce programme sur l'alternance gauche-droite dans de nombreuses démocraties reste néanmoins valable dans son ensemble. Alors après avoir survolé toutes les vicissitudes qu'ont connues et que connaissent les partis politiques dans les pays où le bipartisme existe, je tiens malgré tout à signaler deux ou trois points importants dont je n'ai pas parlé. Premièrement, ces déchirures partisanes ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des dictatures ou des monarchies, où seule une voix se fait entendre. Cela paraît évident. Deuxièmement, l'ensemble de ce programme fut articulé autour du bipartisme qui anime la France et certains pays voisins ou amis. Mais la réalité actuelle aurait dû m'obliger à parler des partis centristes qui revendiquent un dépassement de ce clivage ou des extrêmes qui se refusent à tout amalgame. Puis troisièmement, depuis quelques années, vous ayant surtout parlé des couleurs rouge et bleu des partis dominants, j'aurais pu aussi vous parler du vert. Car l'histoire de l'écologie politique, née sur le vieux continent dans les années 70, devient de plus en plus présent. Alors bien que les enjeux climatiques fassent ou devraient faire partie de tous les programmes de campagne, vu l'importance des problèmes environnementaux, on est obligé de constater que des partis écologiques ont vu le jour sous la couleur verte. Et cette vague verte a pris naissance politiquement en Allemagne, puis au Royaume-Uni dès 1972. En France, le Parti Vert ne fut créé qu'en 1984. Il aurait été injuste, du moins incomplet, de les soustraire du panorama politique. Dans certains pays, comme c'est le cas au Danemark, selon Daniel Boy, l'écologie politique est arrivée par d'autres canaux. Au lieu de se développer dans des partis strictement verts, comme en France et en Allemagne, elle s'est développée dans des partis de gauche, à gauche du Parti Socialiste. Mais le but de cette émission n'était pas de faire un référencement des partis politiques en Europe ou dans le monde, mais de montrer et d'expliquer le duopole droite-gauche, leurs dénominations suivant les pays, leurs limites et leurs évolutions idéologiques au fil du temps. Allant même à parler des couleurs, permettant de les identifier clairement dans chaque État.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beigue.
Voilà comment j'avais envie de raconter l'histoire du bipartisme en France et dans différents pays. En précisant, malgré tout, que si vous avez décelé ou cru déceler, au travers de mes propos, un engagement partisan, il serait judicieux que vous réécoutiez cette émission en podcast sur le site orinoco-podcast. Car si ce clivage existe réellement, il ne m'est pas donné de porter quelque jugement que ce soit, ni de tenter a fortiori de le partager durant ce programme. Et s'il est vrai que le clivage gauche-droite est peut-être moins opérant, il n'empêche que nombreux sont encore aujourd'hui à se dire de gauche ou de droite, ou s'ils ne le disent pas, du moins à le penser. Comme je m'en doutais, il fut difficile de trouver une définition précise de ce qu'est la droite ou de ce qu'était la droite, car au fil du temps, certaines idéologies et grands principes passèrent de la gauche vers la droite, et vice-versa. On peut d'ailleurs en dire autant de la gauche. Dans de nombreux pays, cette tendance à la bipolarisation, au bipartisme ou au duopole se voit aujourd'hui concurrencée par la montée des extrêmes. Vous comprendrez aisément qu'il aurait été prétentieux que de vouloir en une heure résumer la complexité de l'échiquier politique mondial, et que mon ambition était juste de remettre en place quelques terminologies employées pour parler de ce qu'on appelle en France la droite et la gauche. Et à tous ceux qui m'ont supporté pendant cette heure et qui se disent oh, « moi la politique ça m'intéresse pas, puis j'en fais pas », j'aimerais leur préciser ce qu'on disait déjà en 68. Quand vous faites vos courses, vous faites de la politique. Que vous choisissiez d'acheter français ou pas, d'acheter moins cher ou pas, sans identifier la provenance, d'acheter en grande surface ou chez le commerçant du coin, d'acheter bio ou pas, d'acheter de la viande ou pas, de faire 40 bornes pour acheter meilleur marché ou pas. Et oui, derrière ces actes quotidiens et apparemment anodins, un acte politique s'immisce. Vous me direz, je fais de la politique sans le savoir. Eh bien, Monsieur Jourdan, dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, faisait bien de la prose sans le savoir. Et ce n'est pas pour traumatiser les apolitiques que je dis ça, mais pour leur faire comprendre et prendre conscience que voter est un acte politique important auquel on peut se soustraire, mais que la vie en société est remplie d'actes politiques. Politique parfois plus importante que l'ensemble de ce que je viens de décrire dans ce programme, à savoir le duopole gauche-droite. Quoi qu'il en soit, la réécoute de ce programme en podcast vous permettra d'appréhender la légèreté de ce programme qui avait pour thème idéologie politique en deux mots, et vous permettra aussi de découvrir l'intégralité de la programmation musicale qui me servit à illustrer cette émission. Dans ce dernier morceau, le concerto en ut majeur pour harpe et orchestre de François-Adrien Boieldieu, compositeur français né sous l'Ancien Régime qui fit ses armes pendant la Terreur, acquit la célébrité durant le Consulat et l'Empire, fut honoré par les Bourbons puis ruiné par la Révolution de Juillet. On a commencé avec Cherubini et François-Joseph Gossec, surtout connu pour ses musiques révolutionnaires de circonstance, et l'on termine par François-Adrien Boieldieu, ruiné par la Révolution. Voilà, en attendant de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle aventure, je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur à l'écoute de vos radios préférées. À dans un mois. Ciao.